Morin.
C'est une bonne idée.
Live.
C'est une bonne idée.
Avec Dominique Morin.
Ça m'inspire.
Live.
Ça m'inspire.
Morin. Live.
Radio X.
Morin live. Au max.
En deux.
Max Trouman, comment vas-tu?
Je vais très bien.
Ce lendemain de veille?
Je bois pas, fait qu'il y a pas de lendemain de veille, mais je manque de sommeil. Je te dis, il y a du soccer tout le temps. Puis,
les heures, c'est TV, capoté. Là.
C'est capoté. Puis, tu sais, les matchs dans l'Ouest qui sont disputés, soit dans l'Ouest des États-Unis ou du Canada ou même du Mexique, sont à souvent 11h, minuit. Écoute, il y a du soccer tout le temps, ça dure une trentaine de jours, on en profite, on en regarde.
Cette semaine, je regardais avec Dom Morin, je regardais les... Tu sais, on a regardé M6, puis l'équipe, ce genre de station-là, ouais. BBC également, Eurosport, où on jase un peu du foot, puis eux autres, ils capotent un peu sur les horaires, là.
Parce que
c'est de midi à minuit. Hey, cette semaine, il y a une game à minuit le soir, là.
Ah, oh, et puis je me souviens pas c'est quel pays au Moyen-Orient qui se sont tous levés pour venir voir le match à 5h30. Ils ont rempli un genre d'amphithéâtre ou de stade à des heures de fou. Tu sais, on est habitué que c'est nous qui avons des heures de fou pendant la Coupe du Monde. Là, vu qu'elle est en Amérique du Nord, mais là, c'est un peu ailleurs dans le monde qui ont des heures un peu bizarres. Mais as-tu regardé le match du Canada? On s'est écrit un peu, je pense que tu l'as regardé, ouais.
Oh, oui.
C'est quelque chose parce que, tu sais, je prends du monde comme Anthony Marcotte qui anime à BPM Sport,
oui.
Qui n'aime pas le soccer. On en parle, il me niaise, je le niaise, je vais coacher l'hiver, on s'appelle, puis, tu sais, c'est un sport qu'il n'aime pas pour plein de raisons. Mais Colin, hier, il se ramasse à tweeter sur le match, il adore, je l'appelle, il m'analyse le match, j'embarque ce soccer-là, je l'aime. Tu sais, que vous aimiez ou pas le soccer, un match comme hier, tu peux pas détester ça. C'est un spectacle, c'est un divertissement, c'est un sport, puis c'était parfait.
Ben oui, puis tu sais, je vais faire le parallèle aussi. J'ai regardé un autre match que je trouvais hyper enlevant, la Croatie contre l'Angleterre. Tu sais, c'est...
Wow!
J'ai l'impression que dans cette ronde-là, là, les rondes de groupe où on essaie de se qualifier pour le groupe des 32, il y a beaucoup plus de buts, beaucoup plus de jeux offensifs, beaucoup plus de jeux qui, pour les Nord-Américains, nous permet d'apprécier ce sport-là parce que nous autres, veut pas. On aime plus les games de football qui finissent 48-36 que 9-3. Tu
sais, des 0-0 soccer, faut vraiment t'aimes le soccer pour aimer ça. T'sais, moi, je peux aimer ça, là, c'est correct, là. Mais je comprends que le kidam, un 0-0 soccer, ça devient une joke. Là. Non, il y a plein de matchs. Fait que, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de matchs, on a plus de chances d'avoir des bons matchs. Mais hier, là, je vais te donner une stats, là. Le Canada est rentré 97 fois dans la boîte de réparation adverse avec le ballon, des touches de ballon dans la boîte, là. 97 fois, ça arrive jamais. Le Canada a pris 31 tirs, les Qataris en ont pris 2. Le Canada a cadré 10 tirs, les Qataris en ont cadré 0. C'est un match à sens unique complètement. Et pour une fois, au soccer, c'est un match à sens unique en notre faveur. C'est la première victoire du Canada en Coupe du Monde. Puis ce qui est écœurant, c'est que tout ça est assombri par la blessure d'Ismaël Koné. Mais tabarouette, je sais pas qui avait écrit le script, mais le gars qui rentre pour remplacer Ismaël Koné, Nathan Saliba, marque tout de suite après, puis s'en va chercher le chandail de Koné pour célébrer en le montrant à la foule. Je veux dire, c'est des histoires. C'est pas juste un ballon qui roule à terre, puis une passe, puis un contrôle. C'est une histoire. C'est digne d'une télésérie. Même si c'est un buzz soccer, ça pourrait jouer à TV, puis vous diriez, c'est bien bon, ce scénario-là. Là.
On a tout tombé sur le cul quand Lionel Messi a marqué 3 buts dans le premier match. Ben, tiens, on a un Canadien qui en marque 3 lui aussi. Sérieusement, je pense que hier, j'espère qu'il y a des yeux qui se sont ouverts. C'est sûr qu'il y a eu 2 drapeaux rouges là, à la fin. Tu sentais que le Qatar trouvait le temps long. Là. Mais
tu sais, je regardais le Qatar hier, Dan. Puis, tu sais, après 20 minutes, 30 minutes, il commençait à être frustré. Après 40 minutes, il était encore plus. Puis après 50, il était très frustré. Puis c'est comme ça qu'Ismaël Koné s'est blessé. Fait que, tu sais, les Qataris, il n'y avait pas de solution. Ils étaient complètement dépassés par le Canada qui avait des allures de champion européen. Je veux dire, le Canada jouait tellement bien. Puis les émotions des Qataris, c'est ça qui a fait que le coup n'était pas tant salaud que ça d'Assim Madibo sur Ismaël Koné. Mais c'est la frustration, c'est l'émotion, c'est tout le non-contrôle. Puis on ne comprend pas ce qui se passe avec ce match-là. Puis c'est comme ça que ça a terminé. Mais oui, les Qataris étaient débordés du début à la fin.
Là, je veux te parler des probabilités. Avec la victoire de 6-0 hier, là, dans les écarts, on est en avant de la Suisse, c'est sûr, malgré leur victoire de 4-1.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que le Canada, à moins d'une catastrophe, va passer au groupe des 32?
Ouais, ça prendrait toute une catastrophe. Pour vrai, il faudrait perdre genre 6-0, 7-0 contre la Suisse qui n'arrivera pas. Là, on joue mercredi prochain. Écoute, les probabilités sont très, très, très élevées. Là, ceux qui ont des cours de maths, de cégep ou de secondaire 5, là, l'écart type, là, je veux dire, on n'est pas dans l'écart type. On est vraiment dans le Canada va sortir de son groupe.
Il faut perdre 7-0 puis il faut que Bosnie soit capable d'avoir une grosse, grosse victoire sur les Qataris.
Une énorme victoire, exactement, parce que leur différentiel de but est à moins 3. Fait qu'il faudrait vraiment, vraiment qu'ils trouvent le moyen de gagner par un score qui n'a pas de bon sens. Contre les Qataris, ça peut arriver, là, parce que les Qataris ont deux rouges, donc deux joueurs suspendus, puis c'est pas une top équipe. Mais je veux dire, les probabilités sont vraiment faibles. Puis là, c'est fou parce qu'on se dit, est-ce que le Canada va sortir de son groupe? J'ai le goût de te poser la question, est-ce que le Canada va gagner son groupe, finir premier et avoir un parcours plus intéressant? Parce que si le Canada bat la Suisse, ils sortent du groupe, ils finissent premier du groupe. Si le Canada égalise contre la Suisse, ils finissent premier du groupe. Fait que c'est incroyable ce qui arrive avec le soccer canadien. Mercredi prochain, on va regarder un match qui va nous dire si on va finir premier d'un groupe à la Coupe du monde. C'est incroyable.
Rapidement, dans les autres matchs, on est obligé de dire que les cadors se sont levés. Là. Mbappé, Keane, Messi, tout le monde s'est levé là, cette semaine. Les gens ont envie de le jouer. On va avoir du bon football jusqu'à la fin.
Oui, exact. Tout le monde s'est levé. En fait, les gros joueurs, les gros noms se sont levés, sauf Cristiano Ronaldo, qui a offert un de ses pires matchs. Écoute, je pense que c'est 41, 42 ans, 41 ans. Ronaldo, il fait plus de courses. Je veux dire, avant, il jouait à l'aile, on le met en pointe pour qu'il ait une job un peu plus simple.
Il a tout le temps de l'air fâché quand c'est cool.
T'as tellement raison. Puis c'est comme ça depuis longtemps, mais quand t'es ce genre de joueur-là, puis il y en a beaucoup au soccer, là, ça fait partie de la culture soccer, tu te dois de livrer. Si tu te permets de donner de la merde à tes coéquipiers, puis de donner des consignes, puis d'avoir un non-verbal frustré, il faut que tu livres. Puis là, Ronaldo a pas livré. Portugal a annulé 1-1, mais à part Ronaldo, t'as raison, les gros canons se sont levés, puis c'est le fun.
Une des choses que j'aime, c'est la réception également des Américains par rapport à tous ces matchs-là, toutes ces communautés-là qui rentrent. Les Américains ont l'air d'avoir du fun, sont également impressionnés à quel point les partisans sont bruyants et se manifestent. Les autorités, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est le gars à Dallas qui a dit « J'ai l'impression que je dois organiser un Super Bowl à chaque 3 jours. » C'est hallucinant. Puis le peuple américain embarque au bout à fond là-dedans. C'est vraiment trippant de voir ça aller. Puis surtout, tu l'as dit, ça commence à midi puis ça finit à 3 heures du matin. L'espèce de fuseau horaire des États-Unis permet des matchs à toute heure du jour. C'est complètement malade.
Puis 100%.
J'ose pas imaginer à quel point ça doit brasser en Europe. On aura l'occasion d'en reparler. Parce qu'il faut quand même qu'on prenne du temps pour parler d'hockey un peu.
Ben oui, c'est la semaine. Là. C'est la semaine. C'est les 2 semaines où toutes les équipes se bâtissent, Dan. Fait que c'est là que ça se passe. Là. C'est right now.
Qu'est-ce que tu penses qui va arriver là, durant les prochains jours? Si on regarde ça, on est 19 juin. Là tu as le repêchage, tu as les offres qualificatives, tu as le 1er juillet. Ça va brasser d'ici 10 jours dans la NHL.
Oui, exact. Il y a une transaction importante cette nuit. Là. Les Maple Leafs sont allés chercher Taylor Radish. Lui, il avait été très bon contre le Canadien en série, mais écoute, ils vont payer le gars 8,5 millions par année pendant 8 ans. Puis c'est quasiment le salaire de Lane Hudson. Il est bon Radish, là, mais c'est pas un gars qui va gagner le trophée Norris. En plus, les Maple Leafs ont nommé Jim Iller comme coach. Ça a fait parler. Ils ont échangé Joseph Wall, qui était un super espoir devant le but. Ça a fait parler. C'est une drôle de semaine pour les Maple Leafs. Laissons-les avec leur merde, là, mais c'est une drôle de semaine pour eux. Dans 8 jours au repêchage, le 29 juin, offre qualificative, c'est-à-dire que les joueurs qui sont autonomes avec restriction, il faut leur soumettre une offre, sinon on les perd. Et 1er juillet, joueurs autonomes. D'ici là, plein de transactions, plein de rumeurs. C'est là que ça se passe.
Est-ce que le Canadien va repêcher au premier tour?
Je pense pas. On a un choix tellement loin que, tu sais, on n'est plus là. La reconstruction, elle se termine. Je suis pas mal convaincu qu'on ne repêchera pas. On va l'échanger pour quelque chose. En même temps, un choix de fin de premier tour, ça n'a pas une énorme valeur. Fait que, tu sais, le Canadien va devoir prendre ça, le mettre avec un joueur de la LNH, avec un espoir, pour arriver à avoir un package intéressant pour améliorer l'équipe. Mais je pense pas qu'on va repêcher au premier tour.
Pourquoi Gallagher est encore dans le Canadien?
Les Canucks le veulent, c'est ce qui est sorti dans les dernières heures, puis ça a bien du sens. Les Canucks le veulent, mais ils attendent, t'sais, ils sont pas pressés, ils restent en masse de temps. Fait qu'eux autres sont comme, donnez-nous un cadeau, t'sais, donnez-nous un choix, donnez-nous un espoir avec Gallagher, gardez une grosse partie du salaire, etc. Donc les Canucks sont pas pressés et la pression est un peu sur le Canadien qui veut libérer cet espace-là pour faire d'autres moves.
Et qui veut le faire en respectant aussi Gally, là.
100% ils l'ont dit. Puis je me souviens pas où j'ai lu ça. Je pense que c'est dans The Athletic ce matin en me levant. Le Canadien est prêt à racheter le contrat de Gallagher pour le faire aller dans une ville où il veut jouer au lieu de l'échanger dans une ville où il veut pas, par respect pour Gallagher et tout ce qu'il a fait pour l'équipe. Alors, le Canadien est un peu de pression pour agir. Les Canucks regardent ça de loin en disant, nous autres, on le veut, Gallagher, mais tu sais, on veut un choix de deux, on veut tel espoir, on veut que vous gardiez 2,5 millions, mettons, sur le contrat. Donc, les Canucks attendent et le Canadien va devoir donner quelque chose.
Merci infiniment. On va se reparler de toute façon la semaine prochaine. Je vais parler à Snake aussi pour savoir comment ça va marcher. Mais penses-tu que les gars comme Michael Hage, tu sais, il y a deux perles, le Russe puis Hage, il y a deux perles dans la besace du Canadien de Montréal. Est-ce que les deux seront encore des membres de l'organisation du Canadien le 1er juillet?
Je pense pas. Ben, 1er juillet, peut-être. Écoute, je pense que les deux joueront pas à Montréal, commenceront pas leur carrière à Montréal parce qu'on est rendu à vouloir améliorer l'équipe à court terme. On est rendu là. On l'a vu. On est
demi-finaliste, t'as pas le choix. Faut que tu penses à la Coupe Stanley l'année d'après.
Exact. Et là, tu as deux super bons espoirs que tu n'as pas le temps d'attendre pour eux autres. Les deux peuvent pas venir cette année. Il y en a un qui est engagé en Russie, l'autre est engagé encore à NCA aux États-Unis. Donc, ça me surprendrait qu'on garde ces deux espoirs-là pour le moyen/long terme. Je pense qu'on va sacrifier un des deux. Je ne suis pas sûr de qui, mais m'a dit de quoi Zarowski est surpris de l'attention médiatique au Québec. Quelqu'un qui le prend en photo à l'aéroport, des gens qui vont le filmer puis le vont patiner quand il patine tout seul avec des pucks tranquillement à Brossard. Il est surpris, je te dirais pas nécessairement positivement. C'est un peu intense pour lui. Fait que je sais pas si c'est ce genre de caractère-là qu'on va dire, hey, peut-être qu'il est pas fait pour Montréal, lui, on verra.
Parfait, je te remercie. Bon foot toute la fin de semaine. Il y a des matchs, ça commence à midi aujourd'hui, ça finit encore à minuit à soir. C'est complètement malade, il y en a tout le temps. Puis on se reparle le vendredi prochain, Max.
Yes, salut guys, ciao.
Bye bye, Max Trouman à tous les vendredis, c'est Montréal Live au Max. Max, il trippe vraiment sur le soccer, ça paraît, puis j'aime ça y en parler parce que je m'adresse à Max Lacasse.
Salut!
J'hésite, on hésite, puis c'est la même chose avec Doom cette semaine, on hésite à parler de soccer parce qu'on sait qu'il y a du monde qui va nous écrire « c'est plate, un sport plate », mais hier, c'était vraiment trippant. Puis moi, j'étais dans un bar qui était rempli au bouchon hier soir, puis quand le Canada marquait, tu ne pouvais pas le manquer. Ça criait, tout le monde était content. Tu le sens qu'il y a une vibe. Puis il y a l'esprit de groupe aussi, l'esprit de corps par rapport à tout ça. C'est le fun d'être une gang qui est content puis qui fête, là.
Ça rassemble, là, quand ton pays joue dans une compétition aussi internationale que ça. C'est sûr que tout le pays se joue ensemble. Mais c'est un amour qui commence à grandir. J'ai l'impression. Moi, je trippe pas le soccer, là. Tu me donnes le choix entre ça et un coup de fer 7 directement dans le journal. Je prends le coup de fer 7. Oh. Ceci étant, j'ai bien aimé le brawl du Canada contre le Qatar hier. Il y a des scènes qui commencent à grandir en moi, puis tranquillement, pas vite, plus t'en écoutes, parce qu'on n'est pas familier avec le soccer.
Mais
au Canada.
Mercredi soir aussi, c'était magique de le voir. Donc, c'est le même que tu gagnes des fans.
Tranquillement, pas vite.
Voilà. Hey, j'allais dire merci, Max, il est déjà parti. On parle. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse depuis des années. J'en ai déjà parlé avec les auditeurs. C'est les terres du séminaire. Les terres du séminaire, c'est un espace incroyable. C'est à côté, c'est dans la région de Québec. Un gros mix avec Charlevoix. Il y a du monde qui demande l'accès des terres du séminaire. Puis on n'est pas capable de les avoir. C'est comme flou. On se demande ce qui se passe là. On va faire le tour du sujet parce qu'il y a eu une manifestation de citoyens la semaine dernière, la fin de semaine dernière, où on a dit on veut pouvoir aller sur les terres du séminaire. On fait le tour du sujet. Puis on va parler de bière également. Je pense que Phil Magnan va venir faire son tour aussi. Massoif.com, tout ça d'ici à 10 heures.
Toute l'équipe de Morel Live. De retour dans un instant.
Live.
Oui, monsieur.
Radio.